France Musique.
Bonjour Sabine Gignoux.
Bonjour Dominique, bonjour à tous. Alors ce matin, je vous emmène au musée Fabre de Montpellier, qui consacre une superbe exposition à la peinture napolitaine du XVIIe siècle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2012, ce musée avait déjà présenté une grande exposition sur Caravage et son influence sur la peinture européenne. En fait, ce nouvel accrochage en est un peu le prolongement. En effet, l'âge d'or de la peinture à Naples commence avec l'arrivée dans cette ville, en 1606, de Caravage, qui est en fuite après avoir tué un homme dans une rixe à Rome.
Il faut dire d'ailleurs que Naples est espagnole à l'époque.
Oui, la ville est rattachée à la couronne d'Aragon. Elle est en pleine croissance, presque aussi peuplée que Paris et Londres. Mais jusque-là, à cause de sa position un peu excentrée au sud de la péninsule, son école de peinture est restée provinciale, en retard sur l'art développé par exemple à Florence ou à Venise. Caravage débarque brusquement avec ses figures du peuple peintes au naturel, ses jeux d'ombre et de lumière très contrastés, et c'est une révolution dans les ateliers napolitains. Il meurt malheureusement en 1610, mais l'un de ses grands disciples s'installe à Naples quelques années plus tard, l'Espagnol Giuseppe de Ribera. L'exposition de Montpellier présente 12 de ses tableaux, des figures de saints, puissantes et âpres, mais aussi le pied beau du musée du Louvre, Tout sourire, qui est une véritable déclaration d'amour au petit peuple napolitain.
Spéciale dédicace pour vous, Sabine, qui êtes flûtiste, avec ses concertos pour flûte d'Alessandro Scarlatti, ici interprété par l'ensemble Les Boréades, que dirige justement le flûtiste Francis Colpron. Alors, Sabine, qui sont ces grands peintres à Naples au XVIIe siècle?
Alors Dominique, si je vous dis Caracciolo, Stanzione ou Cavallino, ces noms ne vous diront sans doute rien. Et pourtant, Michel Hilaire, le directeur du musée de Montpellier, a vraiment un œil pour dénicher des joyaux peint par ces artistes et beaucoup d'autres. Il y a par exemple, très influencé par les nocturnes de Caravage, un baptême du Christ saisissant de Caracciolo sur un fond de nuit noire. Il y a aussi le mystérieux maître de l'annonce au berger, qui peint des vieillards avec des tons terreux et une touche un peu rêche, proche des matières tactiles d'un Ribera. Il y a encore des natures mortes formidables. Pas mortes du tout d'ailleurs, mais tellement fraîches, vivantes, qu'on les croirait sorties de ces fabuleux marchés napolitains, vous savez, avec leurs étals débordants de victuailles, d'odeurs, de bruit. Dans la pêche miraculeuse peinte par Giovanni Battista Recco, les poissons sont si luisants, les poulpes encore tout visqueux, qu'on a envie aussitôt de se mettre à la cuisine.
Et alors ce courant naturaliste dure tout au long du XVIIe siècle ?
Non. Assez vite, il s'adoucit en fait. Il prend des couleurs chatoyantes, inspirées par la peinture vénitienne ou flamande. Et le chef-d'œuvre de cette période, c'est La femme au coq, un mystérieux portrait de paysanne déguisé par Stanzione dans un costume couvert de pierreries et de rubans. Une icône extraordinaire prêtée par les musées de San Francisco. Et puis, au milieu du XVIIe siècle, Naples connaît brusquement une série de catastrophes. D'abord une éruption du Vésuve en 1631 qui va faire 3000 morts. Puis en 1647, une révolte populaire éclate, menée par un jeune marchand de poissons, Masaniello, qui est porté brièvement au pouvoir avant d'être assassiné sur l'ordre du vice-roi espagnol. Et en 1656, c'est une effroyable épidémie de peste qui décime les deux tiers de la population. Or, ce qui est très étonnant, Dominique, c'est que ce drame va provoquer dans l'art un sursaut extraordinaire. La peinture napolitaine va plonger après ça dans un tourbillon baroque, débordant de mouvements et de vie, des compositions très théâtrales, saturées d'objets ou de personnages, peut-être sur un fond d'angoisse, une espèce d'horreur du vide. Là, on est loin, très loin désormais de l'austérité des premiers tableaux de Ribera. Mattia Preti, Luca Giordano ou Francesco Solimene se rapprochent beaucoup plus des grandes fêtes vénitiennes et de Rubens. Et l'exposition de Montpellier s'achève sur ce feu d'artifice de peinture, un vrai bouquet final.
Pour illustrer cette exposition à Montpellier, une autre œuvre du napolitain Alessandro Scarlatti, le madrigal Sdegno la fiamma estinse, par le concerto italiano que dirige Rinaldo Alessandrini. Ça vous a plu, hein, je crois.
Énormément.
Oui, c'est très joli. Alors, Sabine, cette exposition donc à Montpellier...
Elle dure jusqu'au 11 octobre.
Au musée Fabre.
Vous avez le temps, mais voilà, si vous faites un détour dans la région cet été, surtout ne la manquez pas, elle est formidable.
Merci bravo. Sandrine.
Bonne idée à vous.
Oui, je voulais m'excuser auprès de Sabine que j'ai appelé Sandrine pour la 200e fois depuis son arrivée.
C'est un plaisir, Dominique.
Vous êtes gentil.